16h30, 17h, Marc et Magui sur Radio Shalom.
Bonjour, après toutes ces bonnes nouvelles, vous êtes sur Radio Shalom 94.8, c'était pas prévu au programme aujourd'hui, j'arrive avec la douce Magui qui court. Bonjour Mac, ça va ?
Bonjour Marc, comment vas-tu ?
Ah oui, ça va, j'ai vu que tu allais bien aujourd'hui, tu avais le sourire que j'aime. Aujourd'hui nous sommes avec Arnaud et nous avons un nouveau réel qui est là pendant deux semaines car Arnaud va partir en vacances. Tu pars en vacances toi Arnaud, et donc comment s'appelle le nouveau réel ?
Salut, moi c'est Henri, j'étais là la semaine de Noël.
Oui, on se rappelle de toi.
Je m'appelle Henri.
Ça y est, c'est parti. Arnaud, ça va ? Tu peux parler ? Tu veux dire bonjour ?
Ah, moi aussi, je peux parler.
Bonjour. Voilà, bonjour.
Ouais,
voilà.
Tu dis bonjour. Voilà. On est très content aujourd'hui, Marc. On est toujours content sur cette émission.
Voilà, parce qu'on rigole. Mais aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle.
Mais particulièrement, et c'est ton cadeau, ça, surtout. Parce que depuis que nous avons vu la pièce dont nous vous parlons depuis beaucoup de semaines maintenant, hein, le cercle des poids disparus.
Dead Poets Society. Merci.
Yes, exactly. Depuis qu'on a vu cette pièce, c'est vrai qu'on est encore dedans. On n'arrive pas à l'oublier. On passe pas à autre chose, en fait. On n'arrive pas. On aime, on regarde, on lit toutes les critiques. On a reçu Stéphane Fraisse il y a 3 semaines. On s'est régalé. Et Marc m'a dit, non mais attends, maintenant qu'on a eu Stéphane, il faut attraper Ethan Oliel. Bonjour Ethan.
Bonjour Maggie.
Comment vas-tu ?
Tiens, comment tu ne dis pas bonjour ? Dis bonjour. Merci.
Excuse-moi, vous êtes...
Merci Ethan.
Vous êtes qui ? Excusez-moi, vous êtes qui ?
Alors, il est très sympathique quand même.
Il est super. Super.
C'est le genre de mec, tu vois, il parle pas et te fait rire déjà.
Exact, non, c'est vrai.
Alors que dans la pièce, tu nous fais pas rire.
Non, pas du tout. Oui, c'est pas mon rôle en tout cas.
C'est pas ton rôle. Alors, c'est vrai qu'on aurait aimé inviter tout le monde, mais t'as vu, le studio est petit. Il fallait qu'on en choisisse un, mais on s'est dit.
Bon, on a laissé
Radio Shalom, Ethan Oliel. Et en plus, t'as quand même le rôle. Enfin, c'est un peu le rôle principal de tous les garçons. Okay, un peu, hein, pour moi, je trouve.
Le rôle principal, je dirais pas, mais c'est le rôle qui explique le pourquoi du comment de la pièce.
Qui amène l'attention dramatique, bien sûr, qui fait basculer l'histoire.
Bon, puis après, on a laissé d'abord que vous alliez chez C'est à vous.
Ouais. Oui, bon,
voilà, on l'a resté là. On l'a resté là devant.
C'est gentil.
C'était sympa.
C'est gentil, c'était sympa. Ouais.
Et elle était contente. Comment elle s'appelle déjà ?
Bernadette.
Bernadette. Alors, juste pour faire un petit peu connaissance avec ta carrière, parce que tu as déjà une petite carrière, mine de rien. 2022-2023, tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Les Joues Rouges. Vous jouez tous ensemble dans L'écume des jours de Boris Vian, ce qui n'est pas rien. Au même moment, tu as deux seuls en scène. Tu as Une femme et son siècle, puis Le garçon nuage, qui te vaut d'être nominé d'ailleurs comme artiste révélation masculine en 2023 au trophée de la comédie
musicale. Ça, c'est pour La Tempête.
Ah, c'est pour La Tempête.
Ouais, j'ai été nommé.
Tu vois, vraiment, il a fait beaucoup de choses. Hein. En 22 et 23, lui, après le Covid, il s'est réveillé. Il a pas arrêté. Il a foncé. Puis tu as été aussi Pinocchio.
J'ai joué dans Les Aventures de Pinocchio, de Olivier Soliveres, qui met en scène le cercle des poètes.
Voilà, exactement.
Et j'ai joué le criquet.
Le criquet, exactement.
Timini.
Et là, on te retrouve le brillant Nel Perry dans Le Cercle des Poètes Disparus, qui est, j'ai mis la photo tellement ça m'a fait plaisir, éligible au Molière de la révélation masculine.
Oh, vous avez tout emporté.
Alors là, Ethan, bravo.
Si vous emportez pas tout, il faut qu'il change de métier.
Ouais, exactement. Bravo. En fait, tout mérite d'être remporté. Les tout, en fait. La mise en scène, l'histoire, l'adaptation, Stéphane.
Quand j'étais gamin, il y a ce film-là m'a marqué. Parce qu'il vient du film, pour ceux qui ne connaissent pas Le Cercle des Poètes Disparus. Donc, c'était un film en 89, la même époque que La Brouelle Mania, si je disais
ça. Oui, c'est ça en off.
Et en fait, votre bande de copains, ça m'a fait un peu penser un peu différemment. Bien sûr, il y a un petit côté rappel du film, c'est normal, parce qu'il faut respecter une partie du scénario. Mais, surtout, comment il s'appelle le jeune qui est un peu fort, qui est très...
Pierre Delage.
Voilà. Moi, ça, cette troupe, différemment, ça m'a rappelé en plus un film que j'ai adoré qui s'appelle Stand By Me.
Oui.
Et en fait, dans les films d'époque de Stand By Me, les Goonies, etc., les films américains, t'avais toujours le gros, le maigre, celui qui fait que des conneries. Et en fait, là-dedans,
chacun
est représenté. Et vous êtes tous à la fois
attachants,
drôles, on a envie de pleurer. Tous, pas forcément ceux qui font pleurer, mais il y a un côté très humain là-dedans et vraiment, mais bravo, mais quelle pièce de théâtre. Ils vont être pleins à libitum.
Ouais, exactement, c'est un bijou. Et nous, en tout cas, la Radio Shalom, on est fiers parce que aussi, c'est Ethan Oliel. Ça nous fait plaisir. Non, mais ça nous fait plaisir.
Moi aussi, je suis content.
Est-ce que tu connais la signification de ton prénom ?
Ah, je l'ai su.
Ouais, c'est important parce que ça va bien avec ta petite personnalité là qui commence à émerger.
C'est la fougue, non ?
La force, la fougue, mais c'est pas n'importe quelle force en fait. C'est une force qui est ancrée dans la terre. Et puis quand elle est là, elle est bien là et elle bouge pas. Et je trouve que ça te va très bien.
Ah bah, c'est gentil.
Et je trouvais que c'était important. Donc tu diras à tes parents que je t'ai appris la signification.
Oui, à mon avis, ils vont surtout me dire, on te l'avait dit.
On te l'avait dit
fois,
certainement plein de fois. Exactement.
Alors, si t'avais besoin d'une deuxième mère juive, t'en as une.
Ouais, bah oui, écoute, en plus, je t'ai dit, mon fils s'appelle Ethan, donc c'est encore plus mignon. Mais alors, moi, j'ai envie de commencer à savoir, j'aurais connaître quelque chose qui m'intrigue, en fait. Est-ce que tu pourrais nous dire quels pourraient être les points communs entre toi et Niel Perry,
bien sûr,
dans la vraie vie?
J'étais comme lui un excellent élève. C'est vrai, ouais. J'ai eu cette j'étais un très bon élève. J'ai eu la chance de pas avoir le même père,
ouais.
Ça c'est sûr.
Ouais.
Et j'avais comme lui cette espèce, vous savez, il a une espèce de chose qui boue en lui, mais oui. Il sait pas où le mettre.
Ouais.
Il a quelque chose qui l'anime, quelque chose qui sent qu'il doit le transcender, et au début il sait pas où est-ce qu'il va pouvoir placer ça.
Ouais.
Et ça c'est quelque chose que j'ai eu longtemps, parce que la comédie est venue très tard. En vérité, j'ai commencé à 19 ans, j'avais jamais fait de cours avant, quand j'étais petit ou gamin. Mais je savais qu'il y avait quelque chose que je voulais délivrer, je ne savais pas où, je ne savais pas comment.
Ah ouais.
Et ça, c'est vraiment quelque chose que je partage avec ce personnage.
Oui. Et oui, tiens, c'est marrant, c'est intéressant. Et
tu as fait quoi comme étude?
J'ai fait...
Conflorent, c'est ça?
Conflorent, oui.
Et avant, t'avais fait un bac littéraire ou un bac scientifique?
Non, bac scientifique, pour finalement faire une prépa littéraire. J'avais commencé une prépa littéraire que j'ai abandonnée... en cours de route au bout de 6 mois. Mais voilà, et j'ai fait les cours Florent. Oui.
Ouais, et alors les cours Florent, tu les as fait comment? T'as été sélectionné ou t'as
dû... sélectionné, oui, il y a un espèce de petit stage d'accès.
Voilà.
Et après, tu rentres. Mais bon, les sections, on va dire, sont pas excessivement exigeantes.
Et il paraît que quand on fait les cours Florent, on garde ses potes très longtemps, parce que c'est les premiers steps, les premiers pas...
Alors, pas tous.
Non, parce que la concurrence, c'est comme partout. Hein.
Ouais, bien sûr, voilà. Mais c'est vrai que c'est au-delà d'une école où on peut rencontrer des professeurs extraordinaires. Moi, j'en ai eu une notamment qui m'a marqué à vie. On rencontre les gens avec qui on a envie de travailler, en fait, au début. Parce que, au début, on n'a pas. Notamment la troupe des Joues Rouges, c'est avec eux que j'ai commencé. C'est des gens que j'ai rencontrés à l'école. Et c'est un projet qu'on avait monté à l'école en fin d'année.
Mm-hmm.
Moi, je n'étais pas encore là à l'époque, mais eux, ils l'avaient monté là et je les ai rejoints. Donc, c'est vraiment un projet de Florence, hein, mm-hmm. qui a mis ça et qui a eu une vie après. Et c'est assez rare, en vérité. Il n'y en a pas tant que ça.
Il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai. Bon, tu nous l'as dit un petit peu en off, mais j'aimerais bien que tu racontes aux auditeurs comment s'est déroulé, en fait, le casting. Comment tu es arrivé, toi, à avoir ce rôle, ce magnifique rôle qui va être, je pense, le premier grand rôle de ta vie.
Ouais,
et je t'en souhaite plein d'autres derrière.
C'est
mais
gentil.
Alors, comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous un petit peu.
Alors, l'histoire, l'histoire démarre en janvier 22. Je sors de mon premier seul en scène, donc du Garçon Nuage, la première du Garçon Nuage. Et il y a des amis qui viennent me voir. Et à la suite d'un dîner qu'on fait ensemble, on se dit, mais ce serait chouette qu'on monte un spectacle ensemble. On a envie de jouer, on sort du Covid. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué du tout. On a envie de monter quelque chose, on a cette envie-là. Et moi, je leur dis, mais venez, on monte Le Cercle des Poètes Disparus. Parce que c'est mon film préféré, c'est celui qui me tient à cœur depuis que je suis gamin. Venez, on fait ça. Et donc, on se renseigne pour essayer d'avoir les droits. Donc, on contacte les États-Unis d'Amérique. On essaye de
leur demander... Le rêve américain.
Ouais,
on les appelle.
On essaye d'avoir les droits. Moi, c'est une catastrophe. Je ne parle pas un mot d'anglais, enfin, très peu.
Non, mais dis-nous ce que tu nous as dit, justement.
En fait, j'ai un réflexe idiot quand je commence à parler anglais, c'est que je reprends un accent arabe que je n'ai pas dans la vie.
On veut l'entendre. Comment
tu fais? C'est très étrange. Je fais ça. Forcément, ils m'ont raccroché au nez.
C'est marrant, en fait.
J'ai donc donné à ma sœur le droit de communiquer, parce qu'elle parle très très bien anglais pour le coup. Et ils finissent par me dire, écoutez, ok, envoyez-nous un dossier. C'est incroyable, il faut qu'on envoie un dossier. On essaie de faire un truc béton, on leur dit on va jouer là. On n'a aucun accord des théâtres, mais on leur dit, vous inquiétez pas, ça va le faire. On voit les choses en grand, on leur fait un budget prévisionnel sur 5 ans. Enfin, on est dingue.
J'imagine le travail.
Vraiment, j'appelle une ancienne professeure à moi pour dire, ça te dirait de nous mettre en scène, etc. Elle me dit, oui, bien sûr. Et on fait ça, on envoie le dossier, et ils me disent, ah mais non, mais pas du tout. Attendez, on n'avait pas compris. Vous vouliez monter au Québec? Non, si vous montez en France, les droits, ils sont vendus depuis longtemps. Je fais, mais à qui? On ne peut pas vous dire. Ce qu'on peut vous dire, en revanche, c'est que ça a été vendu une fortune et que vous ne les aurez jamais. Et donc là, bon, douche froide, c'est fini, on passe à autre chose. Et un mois et demi plus tard, l'audition pour monter le spectacle au Théâtre Antoine tombe. Et donc là, c'est hallucinant, parce qu'on avait voulu se renseigner pour savoir... qui avait le droit, comment on faisait. Et il n'y avait aucune information possible. Et là, voilà, on monte le Cercle des Poètes Disparus au Théâtre Antoine. C'était en mai 2022, le premier tour. Et ça a duré une petite année pour savoir que c'était nous.
Ouais. C'est dingue, c'est long d'attendre
en plus.
Une année de stress.
Et alors, en même temps, t'as d'autres potes qui ont été sélectionnés que tu connaissais avant ou pas?
Alors non, même si on a fait les cours Florent, et notamment à la même année, à peu près la même époque, notamment avec Audran Catin qui joue Charlie Dalton, Pierre Delage aussi qui joue Steven Mix,
ouais.
Et Elitona aussi a fait le cours Florent, mais on se connaît pas du cours Florent, ouais. On s'est rencontrés vraiment à l'audition.
Et là vous kiffez ensemble.
Ah non, mais c'est hallucinant.
C'est génial. Quel âge tu as, Ethan?
Combien vous me donnez?
Mais écoute, c'est difficile parce qu'en fait, t'as déjà une carrière, je trouve. Donc, c'est un peu
attends,
compliqué.
Attends, depuis tout à l'heure, je cherche.
Oui.
Mais c'est un truc de fou.
À qui il ressemble? Alors, Marc est très, très fort pour les ressemblances.
Non, mais non, mais c'est Jim Carrey. Mais regarde comment il rigole.
C'est un compliment, hein, parce qu'il
regarde comment il rigole. C'est un très grand acteur.
C'est un immense acteur.
Mais tout le monde pense qu'il fait que rire, mais il fait pas que rire.
Mais
depuis tout à l'heure, je regarde ton sourire. Et il a la même dentition, le même sourire, et c'est même fragilité, parce que t'as beaucoup de fragilité en toi.
Il aurait pas pu. Qu'est-ce que tu racontes?
Non, beaucoup de fragilité en toi, et en plus tu t'exprimes comme un homme de théâtre. Et qu'est-ce que c'est agréable, tu articules.
On est obligé de faire la pub, hein.
Déjà.
Tu dois expliquer pourquoi Ethan d'ailleurs.
Ah voilà, on a pris un nouveau réel. Il veut plus de.
À tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Shalom dans C'était pas prévu au programme avec Marc, avec moi-même et surtout avec notre invité Ethan Oliel qui joue depuis déjà maintenant depuis janvier.
On a passé les caps des 50 dates là. Ouais.
Extraordinaire, les 50 dates dans le cercle des poètes disparus. Alors on était en train de te demander ton âge et tu ne nous as pas répondu.
Non, je vous ai de
tu
invité à deviner.
Alors écoute, je sais pas. 27. 27, voilà, c'est ça à peu près. Bon,
26
ça va.
Parce que c'est chiffre
tu te rends compte, ouais, tu te rends compte, 27 ans, moi je trouve ça magnifique. Comment on gère cette nouvelle notoriété? Parce que je pense que là, il y a une petite notoriété qui s'est installée.
Petite, hein.
Vraiment. Oui, mais...
Attends, moi je vais te la faire...
D'accord. Okay.
Qu'est-ce qu'il va me dire?
T'as une petite amie ou pas?
Waouh, d'accord. Là, comme ça, alors qu'il y a mes parents qui écoutent, voilà, est-ce qu'on est là-dessus?
Parce que c'est ça le kiff, en fait. C'est le kiff de la première notoriété, c'est
d'accord.
Que...
D'accord, moi j'étais
Ah, mais je t'ai vu dans la pièce, toi. Alors, ouais, c'est bon, Ethan.
Tu crois pas si bien, c'est vrai qu'il m'est arrivé de recevoir quelques messages.
Ah, tu vois, c'est pour ça que je demande comment tu gères.
T'as la mère juive Maggie qui t'envoie sur Radio Shalom et puis à côté de ça, t'es ah ouais, Ethan, je suis trop fan.
Non. Alors, moi j'ai un principe. Apparemment, on va parler de ma vie sentimentale. Alors, c'est parti, allons-y. J'ai un principe sur ce genre de truc, c'est de pas aller boire de verre avec des gens qui sont venus me voir parce que je trouve que le rapport est tout de suite biaisé. C'est-à-dire qu'ils ont vu, tu vois, il y a un truc qui pour moi est biaisé. Bon, après, Nathalie Portman n'est pas encore venue me voir, ça se trouve.
Mais n'enlève jamais le i au mot que tu viens de dire.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Il est biaisé.
J'avais tellement l'esprit pur, j'avais même pas vu.
Ouais, mais là, t'as affaire à un coquin.
Nathalie Portman, je pense que si elle t'envoie un petit message.
Oui, bon, là,
mais c'est pas pareil.
Après, on est humain.
Voilà, c'est pas pareil. Mais c'est bien. C'est une bonne manière de se préserver aussi et de mettre ses limites.
Oui,
non, mais c'est bien parce que quelque part, le mystère attire encore plus. Hein.
Ah bah, ouais,
donc,
ça, c'est, pas...
c'est ce qu'il faut faire.
J'espère surtout que les gens aiment le spectacle.
Vraiment, le spectacle magnifique. On le redira jamais assez. Alors, on imagine que tes parents sont très fiers de toi, ça je n'en doute pas une seconde. Nous, ce qu'on aime bien savoir avec Marc concernant les parents, et quels que soient nos invités, on leur pose souvent cette question, voire toujours, est-ce qu'il y a un conseil qu'ils t'ont toujours donné et que toi tu appliques encore aujourd'hui, justement maintenant que tu as cette carrière qui s'ouvre à toi, entre autres, hein, ou peut-être sur autre chose d'ailleurs. Hein.
Si, j'ai beaucoup appris beaucoup de la persévérance chez nous et notamment chez mon père, ouais. C'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Et puis moi, j'étais fasciné, au-delà du conseil, il y avait un truc qui me fascinait chez mon père quand j'étais petit, c'est qu'il faisait un travail pendant des heures et des heures, il rentrait le soir, il avait toujours le sourire, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que le travail n'était pas forcément passé une bonne journée, etc. Et je trouvais, ça me fascinait quand j'étais petit.
J'avais aimé son travail, parce que c'est quand on rentre avec le sourire.
Oui, mais il y arrivait aussi de passer une mauvaise journée, mais je crois qu'il y avait aussi le plaisir immense de nous retrouver, d'être avec nous, et donc
c'est beau parce que tu vois tu l'as retenu, donc c'est quand ça prouve que ça t'a marqué. Est-ce que t'avais un surnom quand t'étais petit?
Tatane. Tatane, j'avais un petit peu vite fait, ou Etanakatan.
J'adore Tatane ou Etanakatan, ça c'est mignon.
Etanakatan,
ça veut dire le petit Ethan, c'est trop mignon, ça c'est mignon, j'aime bien. Est-ce que la transmission est une valeur que toi tu reçois de tes parents et que tu sais que tu vas appliquer quand tu vas fonder une famille et que tu auras des enfants? C'est important la transmission pour toi?
Oui, la transmission c'est très important pour moi, surtout au niveau des valeurs, au niveau de certaines choses à transmettre. Je sais que ça, souvent, en plus j'ai jamais eu moi, on va dire une jeunesse rebelle, j'ai pas vraiment été là-dedans. J'ai toujours été dans cette ambition un jour de pouvoir transmettre certaines valeurs et de me dire que je ferai des enfants le jour où j'estimerai que ça y est, il y a des choses à transmettre, mais qu'il faut encore...
C'est important. Hein.
Pour moi, c'est important.
Alors, c'est une question qui n'est pas du tout là-dedans, mais comme on parle de transmission, je vais juste faire une petite aparté qui est un peu triste, parce que, mais comme je sais que c'est... que tu es de confession juive, etc. Et que, bon voilà. Voilà. Hein, comment t'as vécu le 7 octobre, toi? C'est vrai, parce qu'un jeune homme comme ça, de 26 ans, qui entend tout ça, comment...
Impacté très fort, nécessairement. Ouais. Et au-delà de ce qui s'est passé là-bas, oui. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les réactions ici. Mmh. Et ça m'a confirmé quelque chose qui, moi, m'inquiète sur tous les sujets, et là encore plus particulièrement, c'est que les émotions sont devenues des opinions. Mmh. Et, ça, on arrive à quelque chose qui, pour moi, amène le danger. Mmh. Et ouais, donc j'ai été. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué.
Il n'y a pas de problème au théâtre par rapport à ça, non. Tu ne sens pas du tout. Ouais. Heureusement, non.
J'ai une question, parce qu'on a un autre pote qu'on adore, qui est aussi, comme toi, qui est en train de. Lui, il est plus. Il fait du théâtre. Mais peut-être que tu le connais, parce qu'il est aussi sympathique que
demain,
toi. Il vient demain. Harry Gabizon, est-ce que tu le connais de nom?
Ah non, mais de nom, oui.
C'est
oui,
pas
oui.
Versailles ici, c'est comme ça qu'il a
commencé. Oui, oui.
Il est aussi sympathique que toi.
Ouais, c'est gentil.
Et malheureusement, il est aussi juif que toi.
Ah, ouais, c'est
et on l'a pas fait exprès.
Et sache que nous ne recevons pas que des artistes juifs.
Heureusement, on a reçu Stéphane Fraisse, qui était ashkénaze un petit peu. Ça m'a soulagé, je me sentais un peu seul, tu vois. Je me dis, on est entre le boulot et le macroude. Un peu qu'il file tes fiches, je relève le dossier.
C'est vrai. Est-ce que tu penses que tu es devenu adulte?
Ah, elle est belle cette question.
Elle est belle ma question,
oui.
Hein.
Oui, je pense que je me suis souvent demandé qu'est-ce qui faisait qu'on devenait adulte.
Oui, justement.
Ça a souvent été une question. Est-ce que c'est la bar mitzvah quand on a 13 ans? Ouais. J'ai vu que c'était pas le cas. Ouais. Pour moi, en tout cas, j'étais pas devenu adulte. Ouais. Est-ce que c'est à 18 ans quand on passe son bac, ou est-ce que c'est plus tard? Je pense que le moment qui fait qu'on devient adulte, c'est le moment où on décide de partir sincèrement à la rencontre de soi-même, qu'on frappe à la porte de notre médiocrité, qu'on décide d'ouvrir et qu'on décide de voir ce qui s'y passe, ce qui s'y cache. Je pense que c'est sincèrement, c'est ça qui... C'est l'introspection.
Hey, dis-moi, il a oublié d'être con, lui. Hein.
Non, c'est pas ça, c'est qu'il parle très bien. Tu parles un peu... Alors, on fait toujours des parallèles, on en parlait tout à l'heure. Il y a un artiste qui a eu un César qui parle un peu comme toi, ou tu parles comme lui. Et très intelligent aussi, il a fait des études comme quoi, c'est Quenard.
Ah, je l'adore.
Ah, oui.
Je l'adore.
Mais ça m'étonne pas.
Extraordinaire.
Ouais. Ça m'étonne pas, parce que tu as la même dialectique,
c'est gentil.
La même façon d'aborder les choses. Tu vas pas dire les choses directement. Tu passes par des métaphores ou des métonymies, et ça fait vraiment du bien. Et après, physiquement, si vous ne connaissez pas Ethan Yolel, c'est un mélange. Alors, parce que j'avais
dit. Il continue.
Non, mais on l'a pas dit. C'est un mélange. On l'a pas dit à la radio. On l'a dit en off.
Ah oui, on l'a dit en off.
C'est le mélange entre Jim Carrey, pour ceux qui veulent savoir. Il a le même sourire que Jim Carrey, et tu as des mimiques incroyables, même quand tu parles là.
De qui?
Eh ben, tout le monde a vu ce film, tout le monde a vu Nos Jours Heureux. Vous vous rappelez le père qui est psychologue?
Oui.
Qui est complètement barré là. Eh ben, regardez-le bien quand il parle et quand il rigole et quand il fait son...
Ah ouais?
Et
bah non,
je trouve
ça.
Ah, quand il sourit comme ça, il y a un côté. Quand il s'énervait, le père.
Alors, Marc adore, il adore faire des. Il fait tout le temps ça, mais il trouve. Hein, c'est... Tant qu'il n'a pas trouvé, il lâche pas l'affaire. Mais je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que tu avais une manière particulière de gagner ton argent de poche quand tu étais petit?
J'ai fait du babysitting.
Ouais.
J'adorais ça.
Ouais.
Et puis, je revendais des mangas en brocante avec mon meilleur ami. On se levait très tôt le matin, on les achetait et on les revendait à l'occasion de brocante. Ouais, c'était mes deux occasions
c'est marrant.
Un petit peu d'argent.
Non, j'ai vu aussi vendre des loulaves à la synagogue.
Ah oui, là, tu m'as vu. c'est cher, personne ne l'est pas.
Et si tu étais un péché capital, tu serais lequel?
La gourmandise.
Ah, allez. Alors c'est bien, parce qu'après on aura une question sur la gourmandise, on y reviendra tout à l'heure. T'aimes la musique ou pas?
J'adore.
T'adores la musique.
Ouais.
Et si tu devais te résumer toi par une musique, toi ou ta vie ou quelque chose, ce serait quelle musique? Musique ou chanson?
Vous allez découvrir le mec pas très moderne en moi, la Solitude de Moustaki.
C'est une chanson magnifique.
J'adore.
Magnifique.
Ouais.
Ah d'accord, c'est intéressant. Hein. Il est intéressant ce Ethan Oviel que vous pouvez aller applaudir. Mais je pense qu'il y en a plein qui l'ont vu.
Tu connais un peu l'univers de Moustaki?
L'univers, beaucoup de ses chansons en tout cas.
Ouais. Ouais, une chanson que j'adore, c'est On a toute la mort pour se reposer, toute la vie pour s'éclater.
Oui, c'est ça. Il va nous la trouver, Henri là. Je sais que c'est péché dans la religion, mais est-ce qu'à tout hasard tu es tatoué?
Ah non, pas du tout.
D'accord. Mmh. Et si tu devais faire un tatouage? Si, tu le feras pas, je sais. Je t'interdis.
Non. Tu vas bien t'entendre avec ma mère.
Et si toutefois, un jour,
il veut nous dire quelque chose?
Il veut nous dire quoi?
Je sais pas. Tu veux nous dire quelque chose?
Ah bah vas-y, dis-le nous.
J'ai ce que vous voulez.
Vas-y. Le tout, c'est de le balancer pendant qu'on parle, parce que c'est ça qui est encore plus drôle.
Ouais, j'adore.
Ça, c'est pour Ethan.
C'est pour Ethan.
Merci.
Quelques notes?
Avoir si souvent dormi
C'est étonnant, ça, en fait, mais en même temps, c'est pas tellement. Non, c'est pas si étonnant que ça.
Écoutez, Maggie, merci.
Pardon.
C'est presque une amie. Une douce habitude.
Merci beaucoup. C'était juste quelques notes de Georges Moustaki.
Ça, c'était
ça
pour
fait
toi.
Du bien un peu de Moustaki.
Ouais, vraiment.
Ouais. Bah,
ouais.
Aujourd'hui.
C'est encore mieux quand ma grand-mère le chante. Alors là, je m'envole.
Ah ouais?
Ah oui.
Elle le chante bien.
Ah, elle chante tout bien.
Ta grand-mère qui habite à Fès?
Non, ta grand-mère pas qui habite à Fès, qui habite à Sarcelles. J'embrasse d'ailleurs, parce que je pense qu'elle m'écoute.
Ah, oh, bah certainement. Alors, ça, c'est
elle doit regretter Strauss-Kahn, parce que tous ceux qui habitent à Sarcelles, ils regrettent
Strauss-Kahn. Ah oui, bah oui, quand il était
maire. Il était maire de Sarcelles.
Ouais, bah oui, c'est vrai. Bon, alors,
c'était quoi ta question?
Alors, ma question, c'était au cas où tu devais te faire un tatouage, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que tu sais que les tatouages, c'est quand même très personnel.
J'aurais mis Amor Fati, qui est la phrase de Nietzsche. Qui veut dire aime ton sort, aime ton destin, consent à ce qui advient. Voilà.
Oh,
allez,
alors, sur ce, on va faire.
Non, mais tu sais quoi comme on dit en latin, on veut sortir un peu nos os, cogito ergo sum. pour ceux qui ne parlent pas le latin, c'est je pense donc je suis. Comme disait Coluche, pour ceux qui parlent latin, le rectum c'est le rectum, pour les autres c'est le trou du cul.
Ah bon, alors sur cette belle parole.
Je voulais juste terminer
Oui.
par rapport à ce qu'il a dit.
Oui.
Il a cette force en lui, t'as la force d'Ethan, t'as la force du.
Je te l'ai pas dit au début.
Du mec de théâtre, t'as la force du futur acteur de cinéma qui va exploser.
J'espère.
T'as beaucoup de good vibes et on dit pas ça pour faire plaisir. Parce que quand on ressent rien, on dit rien.
On dit rien, on dit bien, merci.
Mais moi, j'ai envie de poser la question qu'on pose quotidiennement et tout de suite.
Oui, avant
t'as une minute.
Une minute, wow. Ouais.
Trois adjectifs ou trois participes passés ou trois mots pour te décrire tout de suite. Tu dirais quoi? C'est
comme
qui, Ethan? C'est quoi?
Spontanément.
Curieux.
Ouais.
Courageux.
Ouais.
Persistant.
Bah, bravo. Voilà. Alors, merci, on Ethan. Vous laisse avec la pub et on revient tout de suite après le flash avec Ethan Oliel.
16h30, 17h, Marc et Magui sur Radio Shalom.
Oui, bonjour, vous êtes toujours sur Radio Shalom 94.8. Aujourd'hui, nous avons la chance que nous avons deux réals. Nous avons Arnaud et nous avons un nouveau réal pendant deux semaines. Tu te présentes?
C'est Henri.
C'est Henri, il est très sympathique, il a un sourire, il est jovial. Bon, comme j'ai dit en off, il aime manger des hamburgers. Tu vois, il est costaud, il est sympathique, Henri. Mais on va t'apprendre
après,
à manger.
Bon, c'est pas que ça actuellement.
Ah, on va t'apprendre à manger des hamburgers cachers, tu verras, ça va être très bon. Moi, je suis gourmand comme toi, donc il a une très bonne tête. Et donc, nous aimons Henri, on lui souhaite un vrai welcome. Voilà, je vous le dis.
Bienvenue.
Mais non, mais c'est important de soutenir les Jones. Aujourd'hui, c'est pour ça que je te soutiens, les Jones. Je suis toujours avec Maggie et aujourd'hui, nous recevons Ethan Oliel. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, vous allez voir, c'est notre futur star d'aujourd'hui et de demain, puisqu'il joue dans la pièce de théâtre Le Cercle des Poètes Disparus, l'adaptation française du film Dead Poets Society.
Oh, capitaine. C'est Neil Perry en plus dans la pièce.
Oh capitaine, mon capitaine, Carpe Diem, que beaucoup de jeunes se sont tatoués sur le corps après le film, il faut le savoir.
On parlait de tatouage, c'est vrai.
Et nous allons continuer à lui poser plein de questions, à le charcuter.
Oui,
il a oublié d'être bête, ce
on
petit Ethan.
On a encore 10 bonnes minutes et on va en profiter avec toi, Ethan.
Avec grand plaisir.
Alors, évidemment, tu es la génération quand même réseaux sociaux.
Oui, je les ai vus apparaître.
Tu les as vus, ouais. Et tu passes combien de temps par jour, si tu devais faire une moyenne? C'est d'abord, est-ce que c'est toi qui gères tes réseaux sociaux ou est-ce que tu es déjà au stade
non,
où t'as...
Non, c'est moi qui gère mes réseaux sociaux. Je ne vais pas te mentir, aujourd'hui, c'est difficile de faire ce métier et de ne pas en avoir du tout.
Bien sûr.
Après, par contre, tu vois, les jours de relâche, genre les lundis, mardis, je les supprime, je les enlève.
Ouais.
Tu
relâches aussi là-dessus.
Ouais, vraiment relâche là-dessus, là-dessus également.
Ouais.
Pour te donner une moyenne, ce serait compliqué, je pense. Mais je les mesure, tu vois.
Ouais.
La durée que je passe, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de limiter.
De limiter. Ouais, bah, c'est important, mais en même temps, c'est vrai que c'est des métiers aujourd'hui
On est obligé d'y passer, mais franchement, pour les gens qui aiment les rapports humains, c'est tout simplement
c'est délicat,
parce que en fait, les rapports sont tellement fake, pas tous, hein, tu peux avoir des belles surprises. Tu sais, nous, on a reçu à la radio des Rachel Kahn grâce aux réseaux sociaux, parce que je lui ai parlé en direct, c'était elle qui gérait son Instagram.
Oui, il y a des bonnes choses, en fait.
On a reçu quelques belles personnes, et moi, j'ai eu des contacts en tant qu'artiste, musicien, mais c'est 1 sur 10 millions, tu vois, c'est vraiment...
C'est pour ça que j'encourage sincèrement les jeunes à venir voir la pièce. Parce qu'on parle du carpe diem, tu sais, on parlait de ça tout à l'heure, donc qu'il y ait des aujourd'hui, les boutons de rose, saisissez les opportunités, etc. Mais carpe diem, c'est donc aussi une injonction à profiter de l'instant présent. À une époque où on est de plus en plus entre le passé et l'avenir, entre les regrets du premier et l'inquiétude du second, et où on filme ce qu'on est en train d'expérimenter au lieu de le vivre pleinement, et on va regarder qui a vu la vidéo qu'on avait filmée pour voir s'il n'y avait pas un
c'est
ex
ouf,
ou un
ouf.
Ami,
c'est
tu
dingue,
vois,
hein.
Qui puisse se dire ah, attends, il est en train de vivre un truc sympa, qu'est-ce que je fais moi de ma vie? Bon, on n'est pas du tout en train de vivre l'instant, quoi. Et donc, c'est pour ça que je pense que Carpe Diem, qui a été une notion assez dévoyée au cours des années, c'est certes.
Ouais.
Aujourd'hui, en tout cas, cette injonction à considérer chaque moment qu'on vit comme une opportunité d'être attentif et d'en être acteur. Dire, Léa, au lieu de m'inquiéter en me disant, c'est mercredi, c'est la reprise, on joue ce soir, il y a qui vient, il y a de la presse qui vient. Attends, me dis pas, il y a de la presse qui vient. Au lieu d'être comme ça, je peux juste me dire, je passe un moment super avec vous, profiter de l'émission qu'on a ensemble. Ça, c'est important et je pense que Carpe Diem, ça peut résonner à nouveau aujourd'hui très fortement.
Ouais, j'espère que ce sera en tout cas le message que vous allez laisser après, après en tout cas toutes ces belles soirées que vous offrez à tout le monde à Paris, et puis vous partez en tournée, tu nous as dit tout à l'heure, ça va être génial, il y a déjà plus de 100 dates.
Et ouais, c'est ça.
C'est vraiment...
Vous allez dans les grandes villes ou aussi dans les plus petites villes?
Ah, on va dans beaucoup de petites villes.
Mais c'est bien. Il va y avoir beaucoup d'écoles, tu vas voir. Alors,
Question, comment vous allez faire pour le décor? Parce que reproduire tout ce que... Alors, je ne vais pas tout annoncer, mais aussi bien l'introduction que tout ce que vous faites, est-ce que chaque ville va vous aider à avoir le décor ou vous le transportez?
Non, je crois qu'il va être transporté, le décor, et c'est un décor de tournée qui va être fabriqué spécialement pour, il me semble.
Plus facile, plus facile à...
Sans doute, mais on va essayer de rester le plus fidèle à ce qu'on a à Paris, parce que...
C'est tellement calant, tout est
génial.
Il faut savoir que ce sont tous des acteurs, des chanteurs, des danseurs, c'est important de le dire.
C'est à l'américaine, en fait. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a... Les comédiens, les acteurs qui ont toute la panoplie avec eux, c'est-à-dire qui savent un peu danser, qui savent un peu chanter, qui savent un peu jouer d'un instrument et qui savent en plus bien jouer, et il n'y en a pas beaucoup. Et là, franchement, on a une belle brochette de six garçons extraordinaires. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel ou pour laquelle tu peux dépenser sans compter et t'en as rien à foutre parce que ça te fait plaisir de dépenser cet argent-là parce que justement, c'est quelque chose que tu adores?
Alors, je ne suis pas très matériel, moi, mais par contre, j'adore faire des cadeaux.
Ah, c'est mignon, ça. Ça, tu peux dépenser sans compter pour faire des cadeaux.
Les cadeaux de première, par exemple, on aime bien faire des cadeaux de première.
Ouais.
Pour le je ne regarde pas du tout combien c'est. J'adore ça. Vraiment,
c'est
le
mignon,
cadeau,
ça.
C'est pas que pour faire plaisir, c'est forcément on se fait aussi plaisir à soi.
Ah bah oui, c'est ça. Si tu as envie de dépenser pour faire plaisir, c'est magnifique. Je trouve ça super, super mignon, moi. Alors, on vit en France.
C'est vrai.
Et ouais, t'as remarqué qu'on vivait en France. Et quand moi je te dis le mot France, à quoi tu penses? Qu'est-ce qui te vient un peu dans ta tête? Ça peut être n'importe quoi.
Je pense beaucoup aux grands auteurs, aux grands textes.
Ah, c'est beau.
Parce que ils m'ont bouleversé et ils ont complètement changé ma façon de voir les choses. Je pense beaucoup à la littérature en vérité.
Ouais.
Et c'est aussi pour ça que j'encourage les jeunes à venir voir cette pièce, parce que tu te rappelles, dans la pièce, c'est des jeunes qui ne s'étaient jamais autorisés à penser qu'il existait un autre chemin que celui qu'on avait tracé pour eux. Et donc, il y a un professeur qui arrive et qui leur dit, la voie qu'on a tracée pour vous, elle existe, mais il y en a d'autres.
Il y a
la vôtre, en vérité. Ouais. Il faut la trouver. C'est peut-être pas celle qu'on avait dessinée pour vous.
Ouais.
Et cet enseignement se fait par le truchement de la littérature, par l'enseignement de la poésie, par la façon dont on s'approprie les mots, le langage, la façon qu'on a de mettre les mots ensemble et comment ils vont résonner dans l'air et provoquer chez nous des choses. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler. Et quand je pense, quand tu me dis France, je pense aux grands auteurs. Je pense beaucoup à ça.
Bon, bah, c'est pas à propos de grands auteurs, j'ai un petit mot pour lui.
Oui.
Donne pour donner.
Encore.
C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner. C'est la seule façon de vivre.
Ethan,
c'est la seule façon d'aimer.
Merci beaucoup, Henri.
Merci, Henri.
C'est quoi ta petite victoire au quotidien, alors? Après tout ce que tu vis là, ces derniers mois
C'est de m'être autodiscipliné, je pense. Parce que je suis un... Je pense que si on m'avait laissé ne rien faire de ma vie, j'aurais volontairement rien fait. Je pense que vraiment, avec un plaisir inouï.
J'adore.
Mais je pense sincèrement que le jour où je me suis mis au travail, je suis toujours marqué, puisqu'on parle des professeurs, notamment dans le spectacle, j'avais une professeure en hippocagne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'école, tu sais, c'est quand on se retrouve en face à face avec le professeur et puis dans les
classes préparatoires. Ah, t'as fait cagne, hippocagne, quand même?
J'ai fait juste cagne. Ouais. J'ai juste hippocagne, pardon. Et je faisais une école d'espagnol, donc pas des mots, ça va être machin, avec un niveau bidon.
Avec l'accent arabe aussi, celui-là, ou pas?
Hola, que tal, l'arziz? Ça va, l'arziz? Tout dort bien, l'arziz?
Je commence à parler, et je fais mon truc, je finis, elle me dit rien, et finit par me dire, c'est marrant parce que vous avez peur de travailler, parce que vous avez peur de vous apercevoir que vous n'êtes pas aussi talentueux que vous voulez être murmuré à vous-même.
Waouh!
Je laisse un blanc... je finis par faire et pour des mots belles qui arrivent là. J'essaie de m'en sortir comme je peux.
Incroyable, mais cette réflexion.
Mais c'est dingue, c'est
ça m'a mis une claquasse, ouais. Énorme.
On a claquetta.
On a claqueta, ouais. Vraiment. Et j'ai pas tout de suite compris. Et je repense souvent à ce qu'elle m'a dit cette prof, dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse, parce qu'elle avait raison. C'est-à-dire qu'il y a cette peur de l'échec, cette peur de se confronter à autre chose. Que c'est plus facile de se dire j'ai du potentiel, un jour je pourrais si, et de vivre sa vie au conditionnel. Ouais. Mais le jour où on doit vraiment se confronter à soi-même, on doit vraiment se mettre au travail et donc affronter l'échec.
Ouais. C'est vrai. Et je suis sûre que vous six, là, parce que nous, on a posé la question à Stéphane quand il était là, justement, à savoir s'il avait eu un professeur qui ressemblait un peu à Keating. Et je pense que vous six aussi, vous avez.
Moi, j'en ai eu un. Ouais. Alors, j'ai ma prof de théâtre qui m'a marqué à vie, Petroni.
Ah, qui est-ce ?
Petroni de Saint-Rapt. Ouais. Je l'embrasse très fort, qui est venu voir le spectacle la semaine dernière. J'étais très ému.
Ah, bah oui, j'imagine.
Forcément. Ouais. Et j'avais un professeur de mathématiques, monsieur Vettel, qui était extraordinaire. Qui rédigeait ses problèmes lui-même, qui avait dans son armoire une espèce de masse en plastique avec laquelle il faisait semblant de menacer ses élèves s'ils avaient une mauvaise note, qui nous laissait des Ferrero Rocher quand on avait des bonnes notes. Et qui faisait des sketchs. C'était ses cours, c'était des sketchs, c'était extraordinaire.
Donc en fait, je crois que vraiment, on a tous eu quand même un professeur. Et c'est aussi pour ça, je pense, que cette pièce, en dehors de tout ce que tu as exprimé tout à l'heure, c'est aussi pour ça. Tout le monde... va creuser un petit peu dans sa mémoire, j'ai l'impression, et se dit mais attends, mais est-ce que moi j'ai vécu un truc comme ça à l'école, à la fac?
Moi j'ai toujours aimé l'histoire et j'avais deux professeurs d'histoire qui m'ont marqué en cinquième et en troisième. Ça s'appelait Madame Huette, en plus c'était une bombe, Madame Cabane. Et en fait, Madame Huette était aussi prof de français, et pas que prof d'histoire, et moi j'adorais le théâtre.
Tu vois, c'est tout
le
monde
a... Et j'avais fait Knock.
Ah oui,
ça vous chatouille ou ça vous chatouille? Monsieur Jouvet.
Et quand tu dis que tout le monde va chercher chez soi, en fait, ce qui est fort, ce qui est assez, parce que moi j'adore on adore aller à la rencontre du public à la fin du spectacle, d'aller voir les gens. Et c'est que j'ai jamais vu ça. J'ai joué, comme tu as rappelé gentiment tout à l'heure, quelques pièces, mais là c'est palpable chez les gens. On a vraiment l'impression de provoquer des choses chez eux. J'ai souvenir d'une vieille dame qui m'a dit en sortant, mais je voulais rentrer en Uber, mais Carpe diem, je rentre à pied.
C'est génial.
Alors, j'allais te le dire tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire. Oui. Quand le film est sorti, donc en 89, puisqu'on l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu une révolution dans la nouvelle génération, puisque j'en faisais partie. Et quand tes parents te parlaient, tu dis carpe diem et fuck. Et si j'ai envie de le faire, je le fais.
Tout à fait, ouais.
Et il y a vraiment eu... Ce film a provoqué un choc chez les ados. Positif, pas tout le temps, parce qu'après, il ne faut pas partir en sucette, tu vois. Comme tu dis, il faut carpe diem, mais en même temps, il faut se mettre face à son destin et face à sa médiocrité, qu'on est médiocre dans un truc et qu'on est bon, tu vois, c'est du travail. On ne devient pas acteur du jour au lendemain. Mais ça provoque toujours des choses. Et encore, cette pièce de théâtre, voilà, tu viens de le dire, ça provoque.
Mais à tout âge confondu. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais gourmand.
Ouais, un peu, ouais.
Alors nous, Marc et moi, c'est la question qu'on préfère, parce qu'on a plein de questions différentes à chaque fois pour les invités, mais on a toujours deux ou trois qui sont les mêmes, parce que ça nous permet de faire des comparaisons, c'est très mignon. Alors imagine que ce soir, tu aies la possibilité d'organiser un dîner chez toi, d'accord ? Mais alors, c'est le dîner de ta vie, c'est-à-dire que quel serait le casting idéal de tes invités ? Tu vois, c'est-à-dire alors ça peut être connu, pas connu, des gens qui sont morts, qui sont là. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'est-ce que tu vas faire à manger, parce qu'on est gourmands les deux, tu vois. Alors, qui a déjà inviterais-tu autour de ta table ce soir?
Vivant ou pas?
C'est ce qu'on lui a dit. Ouais.
Friedrich Nietzsche est là. Il est là et j'ai très envie de savoir comment et pourquoi il est devenu fou à la fin de sa vie.
Ouais.
Donc ça, on va beaucoup parler de ça. Zinedine Zidane est là aussi. Il est venu.
Zinedine Zidane, d'accord.
Très fan de foot.
Ouais.
Mon grand-père et là mon oncle aussi est là, qui ne sont plus là, ils sont là évidemment. Ouais. Une amie à moi est là, qui est disparue l'an dernier aussi, ils sont là, ils sont venus. Et puis tant qu'à faire, en ce moment j'ai très envie d'inviter toute la troupe aussi.
Ah ouais, c'est mignon.
Et
ça.
On leur fait à manger avec ma grand-mère et avec ma mère, avec mes deux grand-mères tant qu'à faire. Alors, on va se régaler.
Là c'est
vraiment deux grand-mères,
la
mon grand-père aussi.
Explose.
Ah ouais, alors là c'est bon, on va se régaler. C'est bon, j'en ai plus rien à faire. Carpe diem. On se régale et là c'est chouchouka, c'est on va se faire une daffina. On va faire une
bonne daffina. On fait un shabbat en pleine semaine en fait.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la daffina, faut expliquer. En fait, tu prends un débrida parce que
après,
tu manges une daffina, tu dors pendant 3 jours.
Ouais, exactement.
La daffina, c'est marocain.
Ouais.
Et c'est juste marocain parce qu'en fait, les musulmans ne font pas la dafina. Bah, j'ai demandé.
Bah, tu savais pas.
La cuisine tunisienne, que ça soit juive ou non juive, c'est quasiment la même.
C'est vrai, ça ressemble. Tu as raison.
Et en fait, c'est un concept la dafina. C'est-à-dire que en hiver, je le comprends. Il fait froid. Mais le marocain est capable de manger une dafina quand il fait 45 degrés. Donc du coup, on a une petite surprise pour toi.
Ah, c'est quoi?
Ça, c'est Maggie qui est au fond d'eau.
Ah voilà, pas vraiment. Hein. Je pense que ses grands-mères sont certainement plus douées que moi.
Fais-moi du couscous, Maggie. Fais-moi du couscous.
Il nous reste 3 minutes et j'ai quand même envie de poser une dernière question que je copie et je le dis à chaque émission. Parce que ça fait partie des questions que je pose à chaque fois. Mais je cite toujours celui qui la pose, lui, à ses invités. Alors, je ne me compare pas à lui, hein, loin de là. C'est Nikos Aliagas, que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a beaucoup de talent dans plein de choses. Et tu sais, quand il faisait l'émission 50 Minutes Inside, il mettait toujours la photo de son invité, petit garçon ou petite fille, puis il leur demandait quelque chose. Moi, comme je n'ai pas de photo, moi, je vais parler juste à Ethan Akatane. D'accord ? Ethan Akatane, tu vas dire à Ethan Akatane ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui.
Je vais commencer. Je suis désolé, je parle beaucoup en citation.
Mais c'est très bien.
Je trouve que c'est aussi une manière de rendre hommage à ces auteurs parce qu'ils ont formulé des idées avec des mots qu'on n'est pas capable de faire, forcément nous. Et j'aimerais lui dire « L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » Qui sont les mots d'Alfred de Musset. Voilà, j'aimerais lui dire ça et lui dire que ça va aller, que chaque jour qui passe le rapproche de celui où ça ira.
Ethan Akatane, c'est tellement mignon. Il y a une chanson qui était Jonathan Akatane, mais on aurait pu faire aussi Ethan Akatane. En tout cas, notre Ethan Oliel qui a bien grandi.
Il va nous mettre les larmes aux yeux, ce coup-là.
Qui a bien grandi. Vous pouvez le retrouver avec Elie Tona, Andra Catin, Maxence Seva, Maxime Irigen et Pierre Delage, qui sont tous les six. Je les ai en dessous, sous les yeux.
Olivier Boinat qui joue mon père, Yvan Garouel qui joue le directeur.
Exactement, qui sont magnifiques.
Ton père, magnifiques. Alors, le directeur aussi.
Ils sont forts.
Qu'est-ce qu'il est fort. Il joue pas longtemps.
Ils sont extraordinaires.
Mais il plante le décor.
Et ben voilà, tous ces magnifiques quotidiens, comédiens, excusez-moi, autour de Stéphane Fraisse au Théâtre Antoine. Vous pouvez les retrouver. Ils sont là déjà au moins jusqu'à la fin du mois de mars.
Jusqu'à fin mai déjà.
Fin mai maintenant, ça a été.
Voilà. Je suis soldat, je crois.
C'est même pas allez-y, c'est courez-y. Voilà, c'est-à-dire, c'est même pas n'y allez pas en marchant, allez-y en courant. Il y a des strapantins, il y a tout. Et pour ceux qui seront dans la France profonde, vous aurez la chance aussi de les rencontrer parce qu'ils vont partir sur les routes. Nous, on te remercie beaucoup, Ethan.
Merci
d'être venu parce que c'était une rencontre via les réseaux pour le coup, voilà, comme quoi ça a aussi des bonnes ondes.
Bon, on avait reçu le taulier avant.
Oui, on avait reçu le taulier, mais c'était normal, on a reçu le taulier avant, mais on avait très envie de recevoir Ethan aussi. Tu reviens quand tu veux.
Avec grand plaisir.
On te souhaite, mais alors...
Vraiment, je suis très heureux d'être là.
Qu'est-ce qu'on lui souhaite? Tout ce qu'il veut, ce jeune homme.
La santé. La santé, et je vais essayer de me charger du reste.
Exactement. Voilà, la santé, on la demande à qui doit te la donner.
Mais ton prochain grand rôle, on sera devant.
Voilà, exactement. Et tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, Henri. Merci, Arnaud. Merci.
On se retrouve demain.
On se retrouve demain avec Harry.
Avec Gabizone.
Gabizone qu'on adore. Et puis ce soir, il y a Marc Scalia. Je ne sais pas qui il reçoit, mais il a toujours plein de monde sympathique et il fait toujours la fête. Et le journal de Bernard Abouaf à 19h. Je ne me trompe pas. Salut tout le monde, à demain.